Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois Ronan Boussicot qui est directeur conseil au sein de l'agence Mons. Salut Ronan, comment tu vas ?
Salut Valentin, tu vas bien ?
Ouais, ça va, je suis ravi. Je suis ravi de t'avoir avec nous aussi pour un sujet qui est particulièrement prisé par les marques et aussi par les agences beaucoup et qui, moi, me parle particulièrement également. Le sujet du gaming, on va essayer de comprendre ensemble les opportunités que le jeu vidéo représente en in-game, en influence, en collab. Essayer de comprendre un peu les dessous de ce secteur et comprendre comment vous, chez Monstre, vous accompagnez vos clients et vous faites ce boulot un peu d'évangélisation sur les marques. Pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux me pitcher un peu Monstre et nous rappeler ce que vous faites ?
Ouais, Monstre, on est une agence créative d'une 60aine de personnes. On travaille principalement sur des campagnes intégrées, des activations de marques. Notre motto, c'est de faire résonner les marques dans leur époque. Donc, ça veut dire que on essaie à travers différentes expertises comme le social, l'influence et l'événementiel, voire le gaming, comme on va s'en parler, d'essayer de trouver les bons insights pour faire des collabs et des prods qui font plaisir un peu à tout le monde. Et on a surtout la chance de bosser avec des marques qui sont hyper challengeantes et que nous, on challenge aussi. Je pense à du Adidas, du Lacoste, du Microsoft, du JO, du Heineken, du Deezer. Enfin voilà, on en a plein, mais on est vraiment dans cet aspect un peu culturel, d'où aussi le gaming.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'approche que vous avez par rapport à ça ? Comment vous travaillez justement ce sujet du jeu vidéo auprès de vos clients ? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà en tête ? Est-ce que vous êtes uniquement dans une posture d'évangélisation ou est-ce qu'ils ont déjà un peu eux, des intentions derrière ?
Ouais, alors on travaille avec des marques qui sont un peu endémiques, comme on peut le parler, un peu dans la tech. Donc pour eux, c'est assez inné. Je pense à Microsoft avec du Xbox. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un petit peu plus lointain. Donc nous, déjà, on essaie de leur proposer des workshops d'acculturation. Mais c'est vrai que dans la démarche de Monstre, on n'est pas dans une volonté de faire une énième annonce de vertical X ou Y. En fait, nous, dans l'agence, on a vraiment un ADN de mettre les mains un petit peu dans le cambouis sur toute la partie inno. Et donc, on a d'ailleurs une entité qui s'appelle Monstre 30 où on fait des conférences pour parler du futur de la com. Et en fait, le gaming, ça s'instaure un petit peu comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'on a observé que, en fait, on jouait tous beaucoup et on voulait vraiment déjà s'en parler, développer un petit peu. On fait, par exemple, chaque mois, on a des conférences aussi où on s'acculture un peu sur du modding, du speedrun, etc., pour s'ouvrir les chakras sur des opportunités créatives. Et du coup, on met cette exploration et ce décodage au service des marques parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'idées reçues et que ça peut parfois être un petit peu vertigineux avec beaucoup de grammaire parfois difficile à comprendre. Donc nous, on les prend un petit peu par la main. On essaie d'éclaircir un petit peu leur marché et de surtout développer des opportunités créatives derrière.
Donc, vous parlez pas forcément de vertical ou de canal de com, vous réfléchissez un peu plus global, vous considérez comme une agence média agnostique, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est simple, on se refuse, on a une conviction forte qui est, on ne veut pas partir d'un postulat, il faut faire une collab avec un influenceur sur un média, sur une plateforme. C'est-à-dire que si on se parle de gaming, on peut être tenté de se dire, il faut faire quelque chose sur Twitch, il faut travailler avec un streamer, etc. En vérité, nous, on essaie toujours d'avoir trois ingrédients dans notre réflexion. On essaie de mélanger déjà l'insight de la marque, c'est-à-dire son histoire, ses enjeux, son marché, ses produits. Et ensuite, on va aller venir mélanger ça avec les insights de l'audience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qui leur plaise, quelles sont leurs frustrations. Et après, le triptyque, le dernier élément, c'est la culture. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de se dire, tout évolue, on le sait, donc que ça soit en channel, que ça soit en grammaire, en pratique, en code, on va essayer un petit peu de mélanger tout ça pour trouver finalement un point de tension qui va pouvoir permettre d'arriver sur quelque chose d'assez joyful. Évidemment aussi avec le budget qu'on prend en considération pour pas venir avec des choses qui sont pas faisables.
Comment on explique aujourd'hui à une marque que l'univers du jeu vidéo n'est pas uniquement niché, n'est pas uniquement geek, n'est pas uniquement dans le stéréotype et qu'à l'inverse, il est inhérent, il est au cœur de la pop culture. On le voit, il y a beaucoup de films et de séries qui sont inspirées de jeux vidéo et l'inverse est vrai aussi. On voit que le gaming aujourd'hui fait partie d'une culture précise et même plus largement de la pop culture. Tu le disais, on s'était noté avant, il n'y a pas de pop culture sans gaming.
Ouais.
Comment vous expliquez ça à vos prospects, vos clients qui se disent peut-être « Non, mais attends, ça c'est un peu geek, c'est pas nous ça. »
C'est vrai, je pense qu'il y a un peu un reliquat. Le gaming revient de loin quand même. Quand on repense aux années 90 avec les salles d'arcade un peu obscures, à la manière dont les médias en parlaient, je pense qu'il y a eu quand même une vraie montée en puissance progressive. On le voit dans les années 2000, il y a eu beaucoup de jeux avec beaucoup d'ambition, avec d'une évolution technique qui faisait qu'il y avait des croisements avec le cinéma. Je pense qu'il y a eu un jump quand même en 2019. Le gaming représente plus de business que l'industrie du cinéma et de la musique réunie, donc c'est pas anodin. Et puis après, avec les 2015-2020, on a vu les Twitch arriver, On a vu surtout, je pense, un revirement sociétal, mine de rien. Je pense qu'on a tous en tête l'intervention de certains streamers dans les médias, mais en vérité, je pense qu'il y a une sorte de fierté aujourd'hui d'être gamer. Et en fait, toute cette communauté de gamers qui parlent entre elles, bah, elles constituent des audiences faramineuses. Aujourd'hui, on a quand même pas loin de 80% des Français qui jouent au moins une fois par semaine. Et donc, bah, ça représente une opportunité énorme en termes d'audience. Et tu le disais, je pense que le point de convergence aujourd'hui, c'est qu'on arrive un peu à l'âge d'or du gaming où on voit des médiums qui se croisent. Je pense, par exemple, il y a des productions comme Last of Us qui ont été adaptées ou The Witcher. Il y a même des jeux comme Alan Wake qui croisent un peu le cinéma, la musique. C'est plus vraiment qu'un jeu vidéo. Et surtout, on voit les autres sphères culturelles, typiquement la musique ou le sport, où on va avoir des skins de Neymar sur Fortnite. On va avoir des acteurs comme Keanu Reeves ou Idris Elba qui sont dans les derniers Cyberpunk. Donc, on voit que finalement, le jeu vidéo devient cette super production et un art à part entière qui se fait respecter. Et je pense que c'est ce switch qui permet aussi aux joueurs et aux marques de s'y intéresser.
C'est important de noter ça parce que tu prends le bon exemple, hein, celui des acteurs, qui est quand même l'industrie la plus structurée aujourd'hui, en tout cas qui parle beaucoup aux marques, notamment avec le placement de produits, etc. Dans les anciens Call of aussi, on a des acteurs connus. C'est important de rappeler que tout ce qu'on se raconte là, on n'est pas uniquement entre passionnés et entre geekos. C'est bien de raconter aussi à ceux qui nous écoutent que il y a une culture, et qui dit culture commune dit usage, ouais, habitude de consommation, croyance collective. On l'a vu, je pense que le portage, je pense que tu l'as vu sur Squeezie, illustre bien ça aussi, le fait qu'en fait, il y a une communauté de gens qui, oui, sont dans gamer et en même temps, qui plus largement impactent la société. On le voit, le monde de films inspirés de jeux, même plus largement la culture web au final, parce que le mème de GTA, Shit, Here We Go Again.
Yes. Ouais.
C'est, tu vois, il y a un truc ultra, ultra viral, ultra, ultra pop culture, et je pense que ces annonceurs-là, ils doivent comprendre que c'est un levier pour eux.
Clairement. Clairement, et je pense qu'il faut aussi les éduquer et les former, parce que je pense qu'on serait tenté de se dire, de manière purement opportuniste, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, là, on peut plus dire qu'il y a une culture gaming, parce que le terme est tellement galvaudé, que ça soit du mobile gaming, du gaming de console, de PC, etc. Il y a plein d'univers. Et en fait, ça a tendance à se polariser autour de plein de micro-communautés qui vont sur différents outils du Discord, du Reddit pour échanger, ou des plateformes un peu de visionnage, Twitch ou VOD, etc. Mais en fait, maintenant, il y a une certaine granularité, c'est-à-dire que selon les typologies de jeux, on va avoir un langage, une grammaire qui est différente, on va avoir des références, tu parlais de mèmes, etc., qui vont être différentes, et on ne peut pas s'inviter, entre guillemets, à la fête, nous, en tant que marque et en tant qu'agence, pour leur dire, venez, on a quelque chose à vous dire. En fait, il faut comprendre ces codes, et je pense, par exemple, je prends l'exemple de Samuel Etienne, on se parlait de médias traditionnels, c'est un gars qui a un peu compris ça, qui s'est fait former, qui a testé lui-même, et qui, du coup, après, est arrivé avec des propositions qui coïncidaient. C'était pas quelque chose. Il y avait par exemple BFM TV qui avait tenté d'aller sur Twitch il y a quelques années, un petit peu avec leurs gros sabots. Bon, bah, ça a été un peu la douche froide parce qu'ils se sont dit, waouh, c'est un univers qu'on maîtrise pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on va sur un channel et qu'il y a des gens qui disent, waouh, le mec, il va faire un BO3 parce qu'il a utilisé un glitch pour faire son PB. Voilà, aujourd'hui, il faut aussi se familiariser avec ça. Et nous, en tant qu'agence, on se positionne en tant que décodeur parce qu'on a les mains dedans, on est nous-mêmes des joueurs. Et on privilégie du temps avec les marques pour les acculturer là-dessus et se parler un petit peu d'opportunités derrière.
Évident, important, essentiel, mais je le rappelle quand même, pour ceux qui nous écoutent, de différencier le gaming et la pratique e-sport, qui sont deux choses qui fondamentalement sont dans le même univers, mais qui sont d'un côté la compétition et la performance, et de l'autre côté, l'usage, le côté beaucoup plus culturel, beaucoup plus divertissement. Parce que le e-sport fait partie de l'univers du jeu vidéo, mais être gamer, ça veut pas dire faire des perfs de fou malade et vouloir devenir pro. C'est important que les gens qui nous lisent se disent aussi « Ah mais attends, mais l'e-sport, ça me parle pas. » Ouais, mais tu joues à FIFA avec tes potes, t'es dans cet univers-là, quoi qu'il arrive.
Il y a déjà de la compète, quoi.
Oui, et puis t'es concerné, donc oui, tu vas pas acheter le maillot de la Carmine, peut-être. Très bien, mais pour une marque, il y a l'audience à adresser, il y a des usages à exploiter.
Clairement, et puis il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort, en fait. Je pense que la racine de tout ça, c'est que le jeu vidéo, ça a toujours été un vecteur de sociabilité, c'est-à-dire que c'est des gens qui se réunissent autour d'une passion, qui échangent, et quand on voit maintenant la sortie d'un jeu attendu, en une semaine, il y a déjà eu tous les tutos, les astuces, les glitches découverts, donc c'est des communautés qui sont très consolidées entre elles, et en fait, pour les adresser, il faut venir les comprendre derrière. Je pense que l'e-sport, aujourd'hui, canalise un peu dans les médias, ça devient un peu la quintessence du gaming, parce que c'est un peu vertigineux. Ouais. On se dit, c'est des sommes faramineuses, c'est sponsor, des stades de 20 000 personnes. Moi, j'étais avec mes équipes, justement, au KCX, là, tu parlais de la K-Corp. Bon, bah, quand on était avec des clients qui étaient extérieurs, ils hallucinaient, ils voyaient des gens avec des maillots de joueurs. Et nous, bah, pour faire écho à ce qu'on se disait en préambule, par exemple, on a travaillé avec Team Vitality, qui est une team vraiment dans l'e-sport français iconique, qui a gagné beaucoup de choses. Et bah, plutôt que de faire une énième campagne de com classique, nous, on a fait, en fait, une campagne où on a parler du background des joueurs. C'est-à-dire qu'on a raconté leur parcours, un peu en mode tryhard, pour reprendre la grammaire, pour montrer d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont dû battre comme adversité, etc. Parce qu'aujourd'hui, dans l'e-sport, moi, ce que je me rends fréquemment, ce qui me fascine, c'est pas tant que les performances, c'est les histoires d'humains, de joueurs. Il y a des mercatos, il y a parfois, on est un peu dans une télé-réalité. Et aujourd'hui, il y a, encore une fois, bah, ça peut transformer en opportunité créative. Là, ça a été pour raconter finalement l'histoire de ces joueurs.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un avantage qui, je réfléchis en même temps, mais qui est double sur ces profils-là, à la fois les pros e-sport, mais aussi les gamers qui parfois sont des streamers. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le double win pour un annonceur de lui dire « Ok, on va dans un univers jeu vidéo » et en plus, on s'associe à un streamer qui lui-même a sa communauté, au-delà d'avoir la communauté de joueurs, il a aussi lui sa propre communauté. Donc, il y a aussi une logique d'influence, il y a aussi une logique de small execution, big impact aussi, qui va permettre de se dire « Le budget n'est pas forcément faramineux versus de la télé, mais derrière, on a une communauté qui, comme tu le disais, est particulière, ultra engagée. Est-ce que ce n'est pas des choses aussi qui sont intéressantes à noter ?
Si, ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, la question des incarnants, elle est clé. Je pense qu'on se le disait, nous, ce n'est pas un point de départ. C'est plutôt une fois qu'on a un concept derrière, l'incarnant, il vient de manière assez naturelle, finalement. Je pense, là, on a fait une OP avec Lacoste, par exemple, sur un jeu qui s'appelle Trackmania. Pour des montres, on a fait un challenge de speedrun. Bon, bah, qui dit Trackmania, communauté française, dit forcément Zerator dans l'équation, qui, du coup, a été ravi de le faire. Et c'est vrai qu'on, bah, du coup, on s'alloue, on se légitime finalement vis-à-vis de la communauté. Et puis après, c'est pas juste de la pub, c'est de l'entertainment, c'est une pub jouable. On passe du temps. Donc, ça, c'est super cool. Et on peut bosser. Nous, on a bossé, par exemple, aussi avec Kameto, pas mal, sur des OP Adidas. Donc, on peut s'allouer cette audience. Mais en fait, ça n'est pas une porte d'entrée sine qua non d'une réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'incarnant, il a aussi un droit de regard. Et nous, on vient avec une idée. Il faut qu'il se sente à l'aise de le faire. Et puis derrière, ça peut être aussi des UGC. On n'est pas obligé de bosser qu'avec des macros. Le but du jeu, et nous, c'est ce qu'on a fait avec Lacoste, c'est qu'on a un point de départ avec un Zerator. Mais derrière, on a un nombre de streams de Twitch, de gens qui jouent et qui testent l'expérience. Et finalement, c'est ça un peu la reward. C'est que la commu se sent respectée, passe du temps avec notre message. Et derrière, en termes de restitution, c'est super.
En préparant un peu le sujet, on avait noté plusieurs opportunités business en termes d'opérations marketing. Il y a différents leviers. Tu me dis ce que tu en penses. En tout cas, tu peux réagir à ça, évidemment, sur les opportunités du jeu vidéo. Aujourd'hui, pour les marques, a priori, moi, j'ai réussi à dessiner trois manières de bosser dans l'univers du jeu vidéo, qui est déjà l'in-game, c'est-à-dire on amène sa marque dans le virtuel, dans le jeu vidéo. J'ai noté tout ce qui va être collaboration influenceur, créateur, avec les communautés, avec des choses qui sont sur des événements, sur des lives, sur des contenus faits en association avec des créateurs. Donc, vraiment influence, partenariat. Et j'ai aussi noté tout ce qui va être productizing, qui est un petit peu, je vais pas dire à la marge, mais qui est un peu moins régulé, mais qui en même temps est ultra présent quand on voit que KFC a sorti sa console dédiée, quand on voit que IKEA fait des claviers pour les personnes en situation de handicap pour pouvoir continuer à geeker, etc. Il y a ce côté aussi, on veut s'associer à cette culture jeu vidéo pour en faire un élément de com en tant que IKEA. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités?
Non, bah après, c'est pas une liste exhaustive, mais je pense que la clé, c'est par rapport à son marché, à qui on est en tant que marque, c'est de pas juste foncer dans une catégorie. Encore une fois, c'est de prendre le temps de la réflexion. Parfois, la meilleure strat, ça va être faire de l'in-game. Je pense que le jeu vidéo a cette force quand même, cette immersion de pouvoir nous faire ressentir des choses. On n'est pas juste spectateur. Je pense qu'il y a des campagnes primées comme Adopte un mode ou pour sensibiliser sur le sort des chats, on a pris le jeu Stray, on a joué avec des chats, avec des skins, ce qui fait que l'apport émotionnel est différent. Donc, je pense que in-game, on peut faire plein de choses. Après, oui, il y a des velléités plutôt en dehors sur le productizing. Je pense que pour l'instant, il y a un vrai marché sur l'accessibilité. C'est ce que tu mentionnais. On voit qu'il y a de plus en plus aussi de personnes en situation de handicap qui s'expriment et via Twitch qui montrent qu'en fait, il manque des devices, etc. Donc, ça peut être une autre opportunité. Après, moi, je pense, et là aussi, le rôle de l'agence qu'on peut avoir, c'est que nous, on est en relation aussi avec les éditeurs. Et qu'en fait, aujourd'hui, ça peut être extrêmement fantasmé de se dire, on peut imaginer de faire si ça, un custom, quelque chose. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de licences, évidemment, et qu'on peut faire les choses de manière officielle en le contactant. Et nous, on a cette visibilité de savoir ce qui est possible ou non. Après, on peut toujours faire du modding et il y a plein d'OP très cool aussi. Ouais. On peut faire un peu des choses from scratch sur du GTA, sur plein de choses pour sensibiliser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment comprendre l'intérêt de la marque pour se dire quel est l'éventail le mieux. Je pense que si tu parlais de collab, pour moi, c'est un peu un incontournable si on veut aujourd'hui avoir une voix qui résonne. Mais ce n'est pas, encore une fois, la figure qui fera que ça va marcher.
C'est intéressant ce que tu nous dis sur le côté on accompagne, on a l'expertise, on réfléchit, parce que ces communautés, elles sont à la fois hyper engagées, hyper réceptives, elles créent beaucoup de contenu et globalement, elles sont assez bienveillantes lorsque ça se passe bien. Et en même temps, ça peut être aussi un univers un peu risqué, plus que la télé, par exemple. Et ce que tu disais était hyper cool, et je te laisserai m'en dire un peu plus sur cette capacité de ces communautés à, lorsque l'OP est maligne et cool, à la faire rayonner. Mais lorsque c'est mal foutu, lorsque la marque, elle arrive un peu en mode « je balance mon message de pub et je me bats », elle se fait défoncer. Et ça, ça demande encore plus d'expertise de votre part pour bien sensibiliser votre client, lui dire « les gars, attention ». Si ça se passe bien, c'est trop cool. Par contre, comprenez bien que le modding sur GTA, c'est tel code. C'est les mecs qui jouent en gendarme, ils se prennent vraiment pour des gendarmes. Donc, ne les considérez pas comme des gens qui n'ont pas de vie sociale. Non, c'est leur moyen d'expression. Ils font ça en vrai. Donc, si vous voulez faire une OP dedans, prenez-les au sérieux, quoi.
Ouais. Bon, après, l'idée, c'est quand même pas d'arriver au moment où ça se lance et de dire, aïe, ça, c'est vraiment d'anticiper.
Ouais.
Et je pense que la démarche, elle est vraiment collaborative aussi avec nos clients. C'est pas de dire, on est détenteur d'un savoir. C'est de se dire, nous, on explore, on décode et on est là pour vous donner cette grammaire, ce dictionnaire. Mm. Et aussi, dans cette logique de collaboration, de vous mettre des warnings. Mm. Si pour nous, en termes de message, en termes de légitimité, en termes de respect de la communauté, on pousse ou pas trop loin. Nous, je pense que de toute façon, la publicité, ça reste, on le dit un peu, on a envie de se faire plaisir, quoi. On a envie de passer un bon moment. Et en fait, dans les premières minutes de l'OP, on voit directement si ça va prendre ou pas, en vérité. Et la quintessence, c'est quand on voit des gens qui, en UGC, postent eux-mêmes des choses. Et en fait, quand on a énormément de feedback, de verbatim, de gens qui castent, etc., on se dit, bon, bah voilà, ça a pris, les gens ont passé un bon moment. Et du coup, en termes d'attribution, voilà, je prenais l'exemple de Lacoste. C'est vrai qu'on a fait cette OP là il y a pas longtemps et maintenant quand je vois sur Twitch ou sur d'autres choses, je vois que dans la communauté Trackmania, ils disent ah bah dans les OP de marque, si, il y a eu des trucs cool comme avec Lacoste. Donc c'est-à-dire que pour eux, c'est quand même un peu fondateur aussi de se dire on est reconnu et il y a des marques qui s'intéressent à nous mais qui le font intelligemment.
Est-ce qu'il y a plus qu'ailleurs un besoin pour vous en tant qu'agence d'amener un concept, d'amener une mécanique, parce qu'on parle à des gamers qui par définition ont envie du challenge, ont envie de passer l'étape, le niveau supérieur. Est-ce que dans vos opérations, dans vos propositions d'opérations, il faut qu'il y ait cette mécanique de récompense, de next step, de on débloque un truc. Est-ce que c'est inhérent à vos réflexions ou pas spécialement?
Si, ça peut l'être. Après, faut savoir si en fonction du jeu, en fonction du message qu'on a adressé, est-ce que c'est une communauté qui est un peu tryhard, c'est-à-dire qui veut vraiment être challengée. Pour l'exemple de Lacoste, c'était de finir 4 circuits en 12 minutes et 12 secondes. Il y en a que 91 qui l'ont réussi, mais il y a eu plus d'une soixantaine de joueurs pros, donc c'était un vrai, vrai challenge. Après, pour d'autres, c'est plus de passer un bon moment, d'avoir un petit peu un reward qui peut se faire d'une autre manière. Mais si je prends un autre exemple, on a fait une OP aussi très cool avec Ubisoft, où en fait, on s'est dit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de jeux vidéo, on peut prendre des photos in-game. Et donc, c'est devenu une subculture un peu annexe de tous ces gens qui aujourd'hui font de la photographie in-game, qui interrogent aussi l'histoire des NPC, etc. Et nous, en fait, on a adressé ça et on leur a dit, venez, pendant 2 semaines, tous les jeux Ubisoft vont être gratuits, tout le monde peut faire une photo et candidater. Et en fait, on a organisé avec un jury de photographes une exposition, la première exposition dédié au in-game photographie à New York. Et ça a été un vrai succès parce que les gens se sont sentis vraiment...
Ça, c'est hyper éloquent, cet exemple-là. C'est des gens qui dans le jeu vidéo, effectivement, font les photos ou les screens, etc., qui ensuite les exposent, les mettent sur leur site, les vendent. Pour moi, il n'y a pas meilleur exemple de ce qu'est la relation entre jeu vidéo et monde réel et communauté réelle.
Ouais, bah cet exemple d'Ubisoft, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres où il y a des pratiques et des usages qui sont faits, mais qui sont faits un petit peu de manière connexe dans l'ombre. Et c'est une manière de les mettre en lumière, de les faire participer à quelque chose qui les dépasse, et surtout pour la marque de rayonner aussi, pour montrer qu'on les a compris et qu'on a envie de les mettre en avant.
En termes de storytelling, puisque c'est aussi ce que vous proposez avec Monstre, hein, c'est ça aussi le fer de lance et c'est beaucoup dans vos communications, on parle beaucoup de storytelling, qu'est-ce que on va proposer dans l'univers du jeu vidéo quand on est comme toi chez Monstre? Comment on va réfléchir? Quelle est la manière de raconter des choses? Est-ce que la manière de proposer un univers, est-ce que le récit est écrit différemment? Comment vous pensez ça?
Ouais, bah encore une fois, faut partir d'une page blanche, c'est-à-dire que en termes de marché par rapport à la marque, on peut pas adresser n'importe quel message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver la convergence entre cette culture qui existe déjà, cette audience qu'on a envie d'adresser et ce rapport avec la marque. Donc, parfois, ça peut être vraiment quelque chose de très storytellé. Je pense, par exemple, il y a une super OP aussi qui a été primée pour le jeu Clash of Clans, parce que beaucoup de jeux essaient de raconter des nouveaux récits, mais il y a des jeux qui ont déjà des lores, qui ont déjà un petit peu des histoires. Clash of Clans, par exemple, c'est un jeu assez récent. Eux, ils ont eu l'idée assez maligne de se dire, bah, en fait, on va inventer les 40 années qui n'existent pas de notre com pour faire croire qu'on avait en fait un historique énorme. Ils ont créé des fausses pubs, etc. Donc, on peut aller extrêmement loin dans le storytelling, ou alors on peut être plutôt sur quelque chose de très direct si on veut proposer une expérience sur un custom de map, des choses comme ça. Mais nous, on essaie quand même d'éviter de tomber dans l'écueil de la facilité, de se dire « oui, ben, on va se créer un skin, on va se créer ça, etc. » Je pense que la démarche est plus de se dire « ok, par exemple, on remarque que dans la communauté RPG ou FPS, il y a des rôles qui sont des rôles de healer, qui soignent des gens. » Et bah, il y a une OP qui a été faite sur, en fait, pour sensibiliser les gens et recruter les gens sur les bons actes de santé, bah, c'était en fait de faire quelque chose par rapport à ces healers dans les jeux. Donc, en fait, c'est toujours, faut trouver le point de convergence qui est le meilleur, mais ça va vraiment dépendre des sujets en vérité.
C'est intéressant ce que tu nous dis là sur le côté choix éditorial, le récit qu'on raconte, la mécanique. Et au final, c'est un peu à l'instar du marketing classique, c'est un peu l'annonceur et l'agence qui choisissent où est-ce qu'ils veulent mettre le curseur, parce que le faire un skin, faire une map, c'est un peu le côté ultra promo du marketing, et faire une OP plus large avec une vraie mécanique et une vraie histoire, bon là c'est un peu plus du brand content. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'exigence qu'on veut se mettre, est-ce qu'on fait du volume et de l'impression, est-ce qu'on fait une vraie OP avec une idée de fond, donc peut-être un peu moins d'engagement, mais au final une vraie expérience, et au global bah, en RP ça va faire aussi beaucoup de volume. Pour revenir justement sur mon sujet RP, est-ce que le jeu vidéo, un ROI palpable, c'est ma question. Moi, j'ai déjà une idée de la réponse, mais l'idée, c'est de se dire, demain, j'ai un annonceur qui écoute le podcast, qui vous contacte, qui se pose la question, quel ROI pour le jeu vidéo? J'imagine qu'il n'y a pas une réponse unique, mais versus la télé. Voilà, monsieur, voilà, mais j'ai RP, j'ai mes taux d'impression, j'ai mes études avec mes points de notoriété.
Ouais.
Voilà, qu'est-ce que toi, tu me proposes si je fais une OP avec vous via le jeu vidéo?
Bah, je pense que même c'est beaucoup plus tangible que beaucoup de médias classiques, parce qu'en vérité, on se parle d'analyse, comme tu dis, derrière, avec des diagrammes, etc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les communautés de gaming, si elles sont bien adressées, aujourd'hui, elles répondent. Mmh. Et en fait, que ça soit sur quelque chose où c'est purement digital, ou alors même de rattacher, parce qu'on ne sait pas trop parler de ça, mais en termes de touchpoint, on peut totalement rattacher ça à du retail, à plein de choses. Et en fait, quand on fait un peu des meet and greet ou qu'on propose des challenges, nous, avec Microsoft, on essaie aussi de faire ça, où il y a des choses un peu des expériences IRL, on va y répondre présent, et souvent on a même besoin parfois un petit peu de calmer, parce qu'en fait il y a une vague derrière. Donc pour moi, si l'idée est bonne, si les gens se sentent compris, écoutés, en fait derrière ils viennent. Après, en termes de ROI, forcément ça peut se transformer en vente directe, mais même en termes de brand content, d'UGC, on peut vraiment mesurer les choses assez facilement, parce que les gens prennent facilement la parole quand on leur parle de quelque chose qui leur plaise. Donc pour nous, c'est quand même beaucoup plus palpable que simplement des impressions ou des choses sur du print. Voilà, on a l'habitude d'avoir ces metrics, mais en fait là on est un peu plus sur le terrain finalement. Ouais.
Puis on peut tout traquer finalement, parce que tu sais ce que le joueur a fait, tu sais les actions, tu les vois, tout est vu que tout est en ligne, tout est traçable entre guillemets, le nombre de connexions au site, au serveur. Donc c'est ça aussi qu'il faut rappeler, et peut-être aussi de se dire que à l'instar de ce qui se passe dans le monde du sport classique, mais dans des jeux un peu plus mainstream type FIFA, il y a des collaborations sponsors, il y a des sponsors qui sont, c'est d'ailleurs le sujet de FIFA et du nouveau jeu qui a perdu la licence officielle, pour justement pouvoir mettre plusieurs sponsors, etc. Donc il y a quand même du cash en jeu et des moyens de mesurer la perf comme un sponsor classique avec une équipe de foot classique.
Clairement, et tu vois, si tu parles de FIFA, il y a une OP qui était géniale il y a quelques années, Steven Age Challenge là avec Burger King. Mm. Où ils ont eu l'idée d'être sponsors d'une équipe vraiment fond de classement, mais parce que dans le dernier FIFA, ils mettaient des équipes vraiment moins connues. Et en fait, ils ont une idée toute simple. Ils se sont dit, bah, en général, vous créez votre propre équipe dans le jeu. Et bah là, prenez cette équipe parce qu'on est sponsor Burger King. Marquez des buts, et dès que vous marquez un but, vous publiez ça sur Internet et vous avez un Whopper ou un menu offert. Mais laisse tomber, sur Steven Edge, c'était du Messi, du Neymar partout dans ses équipes. Et là, en termes de ROI, tu vois, c'est concret, quoi. C'est que les gens y répondent, mais encore une fois, parce que ça répond à une pratique. On se base pas de nulle part pour avoir un message. Et en termes de durée, moi, j'ai l'impression que souvent, on se bat un peu sur des durées de watch time, d'assets de 6 secondes, 10 secondes. Là, les mecs, en fait, ils jouent, ils s'éclatent. Et en fait, ils passent du temps avec la marque sans s'en rendre compte. Nous, on essaie souvent de dire à nos clients, il y a toujours un peu ce truc de la pub, etc. En fait, je pense que les gens foncièrement, et surtout les gamers, n'ont rien contre la pub. C'est souvent d'ailleurs le gagne-pain de beaucoup de streamers. Mais c'est juste qu'ils ont un peu le sentiment que parfois, ils sont pas entendus. Mais quand il y a des OP comme ça, laisse tomber, le temps qui passe avec la marque, en fait. Et ils ont l'impression d'avoir passé un moment avec la marque. Et ça, c'est génial, quoi.
Mais t'as dit deux choses ultra importantes, je pense, pour ceux qui nous écoutent. Il y a usage. C'est l'usage, et c'est pas les marques, c'est pas eux qui font l'usage. L'usage, c'est les gens. C'est les gamers qui font l'usage. Et du coup, il faut comprendre cet usage, et tu l'as hyper bien dit. Et il y a la deuxième chose, c'est l'expérience. T'imagines, tu joues, tu fais toute une saison avec la marque, sur ton, sur ouais. le, enfin, tu vois, versus la pub Facebook que tu vois 4 secondes. C'est
bah, ouais, ouais,
en termes de préférence de marque.
Je pense qu'il faut rester humble, en fait, en tant que marque, de se dire qu'on n'est pas attendu. Eux, ils font très bien leur vie. Mais si on arrive à s'intéresser à eux, à comprendre ce qu'ils font et à trouver un point de convergence et à leur apporter une expérience, nous, on parle pas mal de pubs jouables, finalement. En fait, on a envie que ça soit une expérience à part entière. Bah, en fait, on fait un bout de chemin ensemble. Et après, en termes de restitution et d'attribution, les gens, ils, voilà, ils ont passé un bon moment avec nous. Donc, on a tout gagné, en fait.
Là où c'est fort, c'est que vous arrivez à amener des brands qui, fondamentalement, sont pas des brands de l'univers du divertissement. Là où Netflix peut faire des OP cool, là où certaines brands de vêtements peuvent le faire parce qu'ils ont un peu ça dans l'ADN. Avec Lacoste, c'était un peu différent parce qu'il fallait les convaincre. Et en même temps, bah, a priori, ça a bien marché. C'est important aussi de se dire que, et tu l'as très bien rappelé, que les gens sont en train de jouer. Et il faut pas casser ça.
Non, non, il faut pas venir en opposition. Il faut venir vraiment par-dessus. C'est, moi, je fais souvent cette analogie de dire qu'en fait, les gamers, ils sont en train de faire la fête ensemble. Ils sont en train de s'éclater. Donc, si tu t'invites à la fête, autant venir avec une bouteille de champagne, quoi. Tu vois, autant venir t'amuser. Mais pour ça, bah, tu vois, si t'as quelqu'un que tu ne connais pas qui arrive, qui te parle de choses que tu comprends pas, bah, tu dis lui, il a rien à faire ici. Et ça, ça se ressent directement. Donc, en fait, tu peux pas tricher, en vérité, sur le gaming. C'est pour ça que nous, la posture qu'on a aujourd'hui en termes d'agence, c'est ouvrir un peu cette porte et permettre aussi à la marque de venir en étant crédible, legit, et en venant avec, voilà, les petits gâteaux apéro et derrière le ROI qui va avec, quoi.
S'il faut noter quelque chose sur cet univers-là, comment on peut le caractériser, cet univers du jeu vidéo, évidemment plein d'opportunités, héroïste, engagé, comment on peut le définir?
Bah, je pense que ça reste un marché porteur déjà, qui est assez mature. Je pense que pour les agences, c'est des opportunités business, pour les annonceurs aussi, et puis surtout un terrain de jeu créatif, en vérité. Mais je pense qu'un point qui est important aussi, et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues malgré tout. Je parlais d'âge d'or tout à l'heure, mais en vérité, on a souvent la notion un peu de Gen Z derrière. Alors qu'en fait, je sais pas si d'ailleurs tu sais l'âge moyen d'un joueur français.
45?
Non, bah c'est 40.
40.
Donc toi, tu es même plus vieux, mais en général, c'est un peu le côté syndrome Gen Z.
Ouais.
Tu vois, on voit aussi qu'il y a beaucoup de parents qui jouent avec les enfants. T'as 69% des parents qui jouent avec leurs gamins au moins une fois par mois. T'as 48% de joueurs qui sont des joueuses.
Le Just Dance, là.
Ouais, c'est, bah voilà,
les stats sont folles.
T'as des jeux familiaux et je pense aussi à la notion d'accessibilité qui est hyper importante. C'est qu'il y a un peu l'écueil de se dire, ouais, le gaming, ça va être un four, il va falloir que je crée une map, un truc, etc. En vrai, c'est hyper accessible parce qu'on peut trouver des moyens vraiment à pas grand chose pour, créer des concepts in-game ou pas et avoir une idée qui résonne et qui peut remporter des prix.
C'est intéressant ce que tu dis là-dessus sur le côté, on peut faire simple, on peut faire efficace, on peut faire malin, on est encore dans un terrain où on peut encore craquer ça. C'est plus trop le cas pour un certain nombre de plateformes social media où on a déjà un peu plus ou moins tout fait, entre guillemets. Là, on est encore dans un système où on peut trouver d'autres mécaniques, on peut aller hacker, c'est ce que vous aimez bien faire, vous, côté agence, vous aimez bien aller craquer, hacker ces mécaniques-là. Est-ce qu'il y a, pour terminer cet épisode, un format, une activation que tu aimerais nous détailler? Tu m'as parlé de Lacoste, est-ce que il y a aussi Ubisoft? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien un peu détailler un peu plus?
Il y en a beaucoup. Après, dans celles qui, moi, m'ont marqué, je pense que là, en ce moment, il y a beaucoup d'OP qui essaient de sensibiliser sur des causes. Je parlais d'Adopt a Mod. Je pense qu'il y a des manières aussi ludiques. Par exemple, sur GTA, bon, GTA 6 qui va arriver, ça va être, à mon avis, aussi une porte d'entrée créative assez hallucinante. Mais Rockstar, bon, verrouille beaucoup les choses. Mais il y avait une OP aussi qui est rewardée, qui était très cool, sur qui s'appelait Los Santos plus 3 degrés Celsius.
Ouais, ouais.
Et en fait, c'était tout simple, c'était de se dire, bon, les messages de sensibilisation sur l'environnement, ça marche ou ça marche pas, mais rendre ça ludique, c'est bizarre à dire, mais en fait, ils ont fait un mode sur la map que tout le monde connaissait et ils ont fait comme si l'eau avait augmenté de, je sais plus, 20-30 mètres, ce qui fait que la map était totalement méconnaissable et que derrière, les gens ont naturellement été joués pour se rendre compte, etc. Donc, en fait, encore une fois, le pouvoir de l'immersion, je pense qu'est vraiment vecteur de beaucoup de choses et je pense qu'il y a aussi des ponts à faire avec beaucoup les NPC aussi, les NPCs, les non-playable characters, où là, on voit des balbutiements avec l'IA qui sont hyper intéressantes, où on voit des gens, je sais pas si t'as vu dans des démos Matrix, qui interrogent des joueurs, donc qui sont des lignes de code, hein, et leur dire, mais est-ce que tu te rends compte que t'es un mec bloqué dans un jeu vidéo, quoi? Tu vois, et tu peux te dire, par exemple, est-ce que pour des SDF ou des gens en situation de handicap, qui sont souvent sous-représentés, tu peux pas avoir des gens qui, à un moment donné, te parlent ou te sensibilisent d'une autre manière? Je pense qu'on est un peu au début de beaucoup de choses. On a un marché qui est mature, mais il y a encore quand même beaucoup d'idées reçues. Et nous, on est là un peu pour faire cette transition en douceur. Et puis, pour se rassembler autour de la table pour faire des choses cool, quoi.
Je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui l'auront noté. On est tous les deux plutôt fans de cet univers, mais c'est surtout aussi d'abord toi ton boulot de faire en sorte que les gens comprennent l'opportunité business déjà pour les annonceurs que ça représente, parce que évidemment qu'on aime en parler, mais surtout ça performe, ça fait de la notoriété, parfois ça fait de la vente. C'est en ligne, donc ça coûte pas forcément très cher. Les concerts sur Fortnite versus le concert dans la vraie vie, en fait, c'est pas les mêmes prix. C'est extrêmement efficace. Et par ailleurs, comme tu l'as très bien dit, voilà, usage, donc respect de la communauté. On peut pas faire n'importe quoi. On peut pas balancer son carton publicitaire comme on ferait au ciné.
Ouais.
Important à garder en tête.
Ouais, important. Et encore une fois, je pense que si on arrive à se mettre à la place du joueur, déjà, on a fait une grosse partie du travail à s'intéresser à lui. Nous, à l'agence, on est des passionnés, on a des tournois, on organise des conférences. Là, on fait une conférence fin mars à l'eSpot, là, aussi pour acculturer un petit peu beaucoup de gens. Et nous, on le vit parce que, on fait des chasses de trophées, on fait des tournois entre nous. Et une fois que déjà on est à la place de ces gens-là, on arrive à challenger aussi les clients. Et une fois que les clients, ils ont réussi aussi à se sentir progresser, parce que je pense qu'il y a un peu un tabou qui est de dire, ouais, gaming, je suis pas légitime, donc je sais pas trop comment l'adresser, donc je vais peut-être faire le petit skins.
Écoute, à partir du moment où t'as Charles qui est venu faire une OP, tu vois, toutes les brands sont légitimes,
c'est sûr. Mais tu vois, c'est ce que je rappelais, c'est que pour moi, il y a un peu le niveau 1 du gaming qui est de dire, on va faire un truc sur Fortnite, et après, il y a le niveau 2, on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes. Je pense que, tu vois, il y a une OP très cool aussi qui avait été faite sur la question de genre, où en fait, c'est vrai que dans les jeux vidéo, quand même, les femmes ont tendance à être très sexualisé dans les tenues, dans les attitudes. En fait, il vient un système de modding, c'était gender swap. Ils ont mis des animes de femmes sur des protagonistes mecs. Hommes, ce qui fait que ça faisait un décalage hallucinant et que du coup, ça mettait aussi le point sur quelque chose qui existe, dont personne parle, mais de manière un peu ludique et le message passe super bien, quoi.
Et effectivement, il y a un côté sensibilisation qui est moins tap down, tu vois, moins évidemment. Je sais, je te donne l'info et il faut que tu l'absorbes. C'est le cas notamment avec l'OP, je pense que tu l'avais passé sur avec la Société Générale sur Among Us, où tu sais, hein, chacun a son skin, etc. Et tu peux avoir des skins à qui il manque soit une jambe, soit t'es en fauteuil.
Ouais.
Et il y avait une OP là-dessus où tu devais finir la game et t'avais ton skin un peu personnalisé en fauteuil ou autre. Et c'était fait par la SOG et t'avais l'illustration ultra concrète et ultra pragmatique de tu peux finir la game avec un handicap et avec cette situation-là. Et tu faisais le parallèle avec la vie réelle. C'est-à-dire que voilà, la SOG est là pour t'aider, même si tu pars pas forcément dans la vie avec tous les avantages. La SOG sera là pour t'aider, pour finir le game. Bah, dans la vie, c'est pareil. Et je trouve que d'un discours qui est très qui est compliqué à faire passer, hein, de se dire oui, la vie, elle est dure. On est là pour vous assurer. Et tu fais un truc qui marche bien, qui est illustré par parce que tu te souviens-toi, Among Us à l'époque, c'était le truc
c'était partout sur Twitch,
confinement
ça a totalement pété, mais c'est vrai que t'as raison. Je pense que il y a des messages parfois difficiles à transmettre ou difficiles à entendre qui, de manière ludique, ensemble, quand on l'expérimente, peuvent se transformer en quelque chose de très constructif. Il y a eu beaucoup d'OP sur des choses pour l'environnement. Il y a eu des tournois Fortnite où fallait pas couper de bois. Il y a plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, quand on arrive à faire ça, je pense qu'on a réussi, on a réussi le gros, quoi. Je pense qu'il y a eu une OP aussi primée assez cool qui s'appelait Loot for Good. Où tu vois, une des pratiques dans l'FPS, dans les Warzone, Call of, etc., c'est de looter beaucoup d'objets. Et pendant une journée, en fait, tout ce qu'ils lootaient, c'était de l'argent vraiment reversé à une association. Mais ce qui est marrant, c'est que je pense que le gaming arrive à un tel stade de maturité qu'il y a un peu des codifiants d'anciens médiums, tu vois, de finalement, on va faire un peu le jeu classique qui marche, hein. Mais du coup, il y a un peu ces modèles qui reviennent. Donc, c'est là où il faut être aussi vigilant pour pas paraître trop mercantile. Mais voilà, enfin, je pense que les joueurs sont à l'écoute. Ils savent que maintenant, ils sont désirés. Maintenant, c'est à nous de savoir comment les adresser et de les faire de la bonne manière, quoi.
Merci, Ronan. Évidemment, je pense que tout le monde a compris qu'on pouvait encore rester là une heure. Pour terminer, est-ce que tu peux me dire très rapidement où est-ce que Monstre se trouve dans 6 mois et où est-ce que Monstre se trouve dans 6 ans?
Eh ben, écoute, dans 6 mois, je pense qu'on sera en train de bosser sur une grosse OP gaming avec des grosses prods. Je pense que là, on a beaucoup de clients qui sont intéressés. Comme je disais, on fait des workshops. Donc, là, tu vois, moi, je suis arrivé il y a que un peu plus de 2 ans à l'agence. On était une trentaine. Là, on s'approche des 70. Donc, ça s'accélère beaucoup. Après, il n'y a pas que le gaming. Enfin, je parlais de Monstre 3030 et du fait qu'on est très sur l'INO. Mais tu vois, on a fait aussi des OP sur l'IA, par exemple. En fait, nous, on essaie d'être beaucoup proactif, quoi. tu vois, sur ces notions de tech et d'inno. On a fait des trucs très cool avec Garlin aussi là-dessus. Donc, je pense que dans 6 mois, on va être vraiment au charbon en train de bosser sur des workshops sur tel OP avec, avec tel streamer, etc. Et puis, dans 6 ans, après, à voir. Je pense que dans 6 ans, le gaming ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Ça va très, très vite. Les outils qu'on connaît aujourd'hui, à mon avis, vont être peut-être en pente un petit peu descendante. Mais dans 6 ans, je pense que ça sera, à mon avis, les médiums qui vont vraiment s'interconnecter. Et je pense peut-être dans 6 ans, on fera une prod peut-être TV qui sera mélangée avec du gaming et qui sera en même temps du live, du replay, avec du brain content à côté. Je pense qu'en vérité, ça va pas mal se diluer. Mais à contrario, à mon avis, il y aura des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques, des nouveaux outils qui vont arriver. Et nous, dans 6 ans, chez Mons, je pense qu'on sera déjà en train de les mettre en pratique et de se faire des petits labos entre nous et avec les clients pour voir ce que ça peut donner. Je pense que l'idée, c'est d'être un peu à l'avant-garde aussi. C'est un peu notre ADN de repérer ces nouvelles tendances. Parce qu'on sait qu'une fois qu'elles sont adressées, c'est un peu le fourre-tout et tout le monde y va. Mais en tout cas, pour être vraiment le meilleur, généralement, il faut déjà être un petit peu les mains dedans, quoi.
Et ben, en tout cas, nous, on sera là aussi pour faire suivre vos opérations, faire suivre vos différentes campagnes auprès de nos audiences. Merci, Ronan, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Ouais, avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui pour parler gaming, un sujet qui nous parle tous et surtout qui nous intéresse particulièrement. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement et ça fait plaisir. Merci à tous, à très bientôt.